France Culture.
L'heure du journal de la rédaction. Bonsoir Julie Paco.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Le monde de la BD toujours en ébullition. L'association propriétaire du festival de bande dessinée d'Angoulême entend confier les rênes de l'événement à deux candidats, dont la société 9e Art Plus, délégataire actuel et cible de vives critiques. Une annonce qui n'éteint pas les appels au boycott du festival lancé par les auteurs, bien au contraire. 10 ans après les attentats de novembre 2015, 3 femmes d'une 20aine d'années mises en examen et écrouées, soupçonnées d'avoir préparé un attentat djihadiste à Paris. La menace djihadiste de plus en plus pressante au Mali. La France appelle ses ressortissants à quitter temporairement le pays, mais beaucoup d'expatriés s'y refusent. Enfin, nous irons au Japon, où l'armée est déployée face aux attaques des ours qui se multiplient cette année, faisant plusieurs morts et une centaine de blessés. C'est une décision qui n'a pas de quoi apaiser la défiance des auteurs de BD. L'association fondatrice du festival de bande dessinée d'Angoulême a décidé de confier son organisation à un binôme, dont la société privée 9e Art Plus, en charge de l'événement depuis 2007 et unanimement critiquée par la profession. À ses côtés, la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, établissement public, ne se dit pas opposée à un tel rapprochement, tout en soulignant que les délais sont trop courts, les deux structures devant soumettre leur projet commun d'ici au 20 novembre. Sauf que du côté des auteurs, et bonsoir Mathilde Cariou.
Bonsoir à tous.
Du côté des auteurs, donc, ce projet de gestion partagée ne passe pas.
Pas du tout. Depuis ce matin, le hashtag boycott FIBD a fleuri sur les réseaux sociaux à l'initiative du syndicat des travailleurs artistes auteurs. On ne nous écoute pas, et ben on n'y va pas, réagit Mathias Lehmann, auteur de bande dessinée et membre du syndicat.
Mais nous, on ne veut plus une entreprise qui a un fonctionnement toxique, qui a un fonctionnement opaque, qui prend en plus un virage artistique pas très bon, qui privilégiait plutôt des partenariats commerciaux un peu douteux. Donc on se reconnaît plus là-dedans.
Même son de cloche du côté des maisons d'édition indépendantes qui se retirent une à une du festival. L'exemplaire, ça et là, ou encore l'association qui dénonce une manœuvre d'Angoulême pour gagner du temps et maintenir 9e Art ainsi que son directeur Franck Bondou. Sur Instagram, les artistes sont nombreux à relayer le boycott, non sans regret, puisque le festival d'Angoulême, c'est quand même le rendez-vous du secteur. Florence Estac est la première femme à avoir reçu le prix d'Angoulême en janvier 2000. Elle est au micro de France Info.
J'ai vu ce festival grandir, devenir formidable et tout, et puis je le vois partir vers un truc entièrement commercial et qui a perdu de son âme, quoi, vraiment.
Florence Estac qui a signé l'appel à bouder le festival d'Angoulême, tout comme Anouk Ricard, Grand Prix de l'année dernière. Ce soir, la pétition approche les 2300 signatures. De quoi se demander, Julie, à quoi va bien pouvoir ressembler le festival déserté par ses auteurs.
Les explications de Mathilde Cariou pour France Culture. Encore quelques centaines d'amendements à examiner d'ici demain soir à l'Assemblée nationale où les députés poursuivent les discussions sur le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Et la partie recette vient tout juste d'être adoptée avec 176 voix pour et 161 contre. Les députés Rassemblement national ayant voté contre cette partie recette. Les socialistes ont voté pour quand les écologistes et les députés Les Républicains se sont abstenus. L'examen du PLFSS peut donc se poursuivre à l'Assemblée sur la partie dépenses et son article phare sur la suspension de la réforme des retraites. À 5 jours des commémorations des attentats du 13 novembre 2015, la menace terroriste est toujours présente et tenace en France. Alors que 9 attentats ont été déjoués l'année dernière, eh bien 3 femmes ont été mises en examen et écrouées le mois dernier, suspectées d'avoir préparé un projet d'attentat djihadiste. Margot Steve, elle voulait viser des salles de concert et bars parisiens.
Oui, 3 jeunes femmes, 2 âgées d'une 20aine d'années. La dernière n'avait que 17 ans au moment de son interpellation. Une adolescente fragile, en grande difficulté scolaire et familiale, qui souffre de phases dépressives et d'idées suicidaires, explique son avocat. Radicalisée via les réseaux sociaux, elle est soupçonnée d'avoir projeté, avec les 2 autres jeunes femmes, une attaque kamikaze contre une salle de concert ou un bar parisien, même si aucune cible précise n'avait été décidée. Reste désormais à savoir quel était l'état d'avancement du projet et qu'en savait exactement chacune des 3 mises en cause. Il s'agit du 6e attentat déjoué depuis le début de l'année, mais c'est la première fois depuis 2021 que des femmes sont impliquées dans un projet d'attentat djihadiste sur le sol français. Leur jeune âge, en revanche, correspond au profil des mises en cause dans les affaires récentes. Selon nos informations, depuis 2023, 2/3 des personnes mises en cause pour des projets d'attentat en France avaient moins de 21 ans.
Le parquet national antiterroriste, qui enquête également sur des soupçons d'actions terroristes, terroriste lié à Salah Abdeslam, le seul membre des commandos des attentats du 13 novembre encore en vie. Trois personnes sont toujours en garde à vue, dont sa compagne, pour recel d'objets illicites à détenus et associations de malfaiteurs terroristes criminels. Elle est suspectée de lui avoir transmis une clé USB contenant de la propagande djihadiste. Condamné à la perpétuité incompressible, Salah Abdeslam est incarcéré dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Il a été placé en garde à vue à deux reprises dans cette affaire cette semaine, garde à vue levée hier. Faut-il rester ou quitter temporairement le Mali? Le dilemme des expatriés français après les recommandations du Quai d'Orsay hier, invitant à quitter le pays d'Afrique de l'Ouest dès que possible par les vols commerciaux. Face à la pression des djihadistes du JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, ces derniers imposent un blocus sur les importations de carburant, entraînant des pénuries, l'arrêt de nombreuses activités et une situation sécuritaire de plus en plus volatile. Avant la France, eh bien les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Espagne, encore le Royaume-Uni avaient également demandé à leurs ressortissants de partir. Mais parmi les expatriés installés de longue date au Mali, nombreux refusent de faire leurs valises. Reportage de David Bachet et RFI pour France Culture.
De nombreux expatriés expliquent vouloir rester au Mali pour des raisons familiales, professionnelles, parce qu'ils ne veulent pas abandonner tout ce qu'ils ont construit. Hélène Ndiaye est française, elle a acquis la nationalité malienne en se mariant à un Malien. Elle vit à Bamako depuis 22 ans.
Je vis ici, c'est chez moi. La situation, elle n'est pas à l'heure actuelle dangereuse pour notre sécurité personnelle dans Bamako. On est dans une fragilité économique, mais on n'est pas attaqué. Bien sûr que c'est difficile, mais lors de questions que je tombe dans ce piège de l'inquiétude.
Mireille, elle, est belge. Elle a passé près de 20 ans au Mali et après avoir déjà assisté à trois coups d'État, à l'occupation du Nord par les groupes djihadistes et à toutes les phases successives de la guerre depuis plus de 10 ans, Mireille s'est finalement résignée à partir il y a quelques jours. Temporairement, espère-t-elle.
C'est une peur qui est venue crise panique. Je me suis dit, est-ce qu'on est en train d'assister à une situation d'Afghanistan où les djihadistes vont prendre le pouvoir? C'est ça qui m'a fait peur, c'est les djihadistes. Ensuite, c'est un risque d'insécurité alimentaire. Je pleure le Mali, j'ai ma vie au Mali, le Mali est dans mon cœur.
À ce stade, la perspective d'une attaque militaire du JNIM pour prendre Bamako est écartée par la plupart des analystes sécuritaires. Vendredi, à son tour, la France a conseillé à ses ressortissants de prévoir un départ temporaire dès que possible. Plus de 4200 Français vivent actuellement au Mali, pour l'immense majorité des binationaux.
Une nouvelle attaque massive de drones et missiles russes la nuit dernière a fait au moins 4 morts en Ukraine. Des frappes qui ont endommagé les infrastructures électriques et gazières à l'approche de l'hiver. Plusieurs régions, y compris celle de la capitale, sont privées d'électricité. L'armée russe aurait lancé 458 drones et 45 missiles sur l'Ukraine, d'après l'armée de l'air ukrainienne. Le président Volodymyr Zelensky regrette que la pression exercée sur la Russie reste trop timide. Déjà 13 morts depuis le printemps et des dizaines de blessés. Jamais les ours n'avaient à ce point attaqué des humains au Japon. Depuis 2023, les nuisances des urcidés vont croissant. Mais c'est encore pire cette année, selon les autorités japonaises, qui sont dépassées et forcées de déployer des moyens nouveaux pour endiguer le phénomène. Karine Nishimura.
Plus de 20 000 signalements d'ours ont été enregistrés en 6 mois au Japon, du jamais vu, et pas seulement dans les campagnes. Plusieurs ursidés ont été repérés dans la ville d'Akita, au cœur de la région la plus affectée, qui a demandé le recours de l'armée. Kenta Suzuki, le gouverneur de ce département d'Akita, au nord du Japon.
Les ours ne sont pas seulement dans les zones montagneuses, ils sont partout, même en ville. C'est une situation inédite, on est obligé de faire attention dès qu'on ouvre la porte de sa maison. Nous sommes en état d'urgence, on a fait tous les efforts possibles. On est dépassé, on manque de ressources humaines. Sans l'aide de l'armée, on ne peut plus protéger la vie des habitants.
En février dernier, une loi avait été votée pour autoriser les chasseurs assermentés à abattre des ours en zone habitée sur mandat des autorités. Entrée en vigueur le 1er septembre, elle a déjà été appliquée plusieurs fois. Et à partir du 13 novembre, les policiers pourront aussi exceptionnellement tuer un ours avec un fusil en cas de nécessité. L'arrivée d'ours au cœur des villes est en partie liée à un manque de nourriture dans leur espace naturel, mais aussi à un mauvais entretien des forêts et des abords des zones habitées, en raison du vieillissement de la population et de l'absence de main-d'œuvre pour effectuer ce travail.
Un mot de météo avec un dimanche automnal qui vous attend demain, sous une grisaille tenace sur la plupart des régions. Le soleil s'impose néanmoins sur le quart sud-est dès le matin, sous la Tramontane et le Mistral. Les températures minimales affichent 3 à 8 degrés en général au réveil, jusqu'à 12 degrés près de la Grande Bleue. C'est la fin de ce journal, préparé ce soir avec Caroline Beneteau et Paul Guigues en régie.